when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent, puisque nous avons 5 types d'épisodes. Les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur une thématique un peu particulière qui me parle beaucoup et qui parlera à beaucoup d'entrepreneurs je pense aussi. J'espère que ça vous plaira, je reçois Delphine qui est coach et qui est spécialisée dans toutes ces notions de perfectionnisme. Elle en parle beaucoup mieux que moi, je vous souhaite une très bonne écoute.
Moi, j'étais une perfectionniste exacerbée, hein, toxique. Le perfectionnisme ne disparaît jamais complètement. Il continue d'être là à certains moments, de refaire surface. Et j'avais travaillé sur des challenges que j'aimerais réaliser, mais qui me font peur. Et j'avais identifié donc un truc qui me ferait vraiment kiffer, ce serait de faire un TEDx, c'est de partager ma vision sur le perfectionnisme. Mais qu'en même temps, je ne me l'autorisais pas, parce que c'était un truc qu'il fallait que je réussisse parfaitement. Parce qu'on va le voir, quand on est perfectionniste, on a extrêmement peur d'échouer.
Hello Delphine, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat, mais surtout un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast qui est ton domaine d'expertise et auquel beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés, je plaide coupable, le perfectionnisme. Bienvenue.
Merci Alexandre.
Alors, pour commencer, ma première question, c'est comme d'habitude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial, ton parcours avant l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi et comment tu en es arrivée là ?
Eh bien, écoute, je me suis reconvertie professionnellement en tant que coach en 2020, donc il y a à peu près 3 ans. Je m'apprêtais à quitter Taïwan pour revenir m'installer en Europe avec ma famille. Et avant cela, j'ai goûté à plusieurs activités professionnelles. J'ai suivi un parcours universitaire assez classique en droit jusqu'à l'obtention de ma thèse. J'ai fait donc de longues études. Et entre autres, pendant mes études, j'ai travaillé dans des domaines différents en tant qu'assistante, juriste, consultante auprès des entreprises, notamment dans le domaine du harcèlement moral et du burn-out professionnel. Et puis, j'ai obtenu une allocation pour mon doctorat. Je suis devenue enseignante à l'université pendant 5 ans. Et puis, je me suis expatriée quelques années plus tard en Asie. Et puis, lorsque je suis arrivée à Taïwan, avec mon mari et mon fils de 7 mois, je n'ai pas retrouvé un poste immédiatement. J'ai passé des entretiens, mais en tant qu'étrangère, c'était assez difficile de trouver quelque chose. Et je me suis sentie complètement perdue. Je ne parlais pas chinois, je parlais très peu anglais, je ne connaissais personne. Et mon mari travaillait toute la journée, moi je m'occupais de mon fils à la maison, ce qui était assez nouveau pour moi. Moi j'avais commencé à travailler à 17 ans et j'ai jamais arrêté et j'ai toujours cumulé études et jobs en fait. Donc en ayant mené plusieurs activités de front comme ça, soudainement j'avais plus que mon enfant à m'occuper pour exister. En ce qui me concerne, j'ai ressenti un grand, grand vide que j'ai essayé de remplir en devenant la mère parfaite. Alors, on va en reparler après, mais c'est important dans mon histoire et dans ma reconversion. J'ai toujours été perfectionniste, mais là, j'ai battu mes records, clairement. J'ai proposé des nouvelles activités Montessori tous les jours à mon fils pour essayer de l'aider dans son développement. Je lui parlais toute la journée, je m'occupais de lui. Enfin, tu vois, je faisais la classe à la maison, il avait 7 mois, quoi, tu vois. Donc, évidemment, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est m'épuiser. J'ai déclaré un burn-out parental. Lui, je l'ai surstimulé. Enfin, tout allait très bien. Donc ça, ça a été un premier électrochoc. J'ai compris que je ne pouvais pas rester isolée toute seule dans la ville où j'étais, à Taïwan. J'étais pas à la capitale, donc j'étais pas entourée d'expatriés, etc. J'ai commencé à entraîner mon mari pour proposer des ateliers musicaux gratuits dans mon immeuble pour rencontrer des voisins. Donc, on a fait des belles rencontres, on a créé des amitiés, on s'est socialisé. Ouais, c'est véridique, hein. Et en fait, rapidement, mes nouvelles amies ont commencé à me demander des conseils en matière d'éducation et de développement de l'enfant parce que, en fait, en tant qu'étrangère, j'avais une manière de faire différente. On n'avait pas la même culture, on ne parlait pas de la même manière à nos enfants, etc. Donc, elles se sont beaucoup interrogées et m'ont demandé beaucoup d'aide. Donc, j'ai commencé à leur transmettre des références de lecture, des recherches scientifiques. Je m'intéressais beaucoup aux émotions déjà à cette époque-là en tant qu'hypersensible. Et donc, j'avais mis en place des exercices de libération émotionnelle pour elles, leurs enfants, etc. Et puis, l'idée a commencé à germer dans ma tête de devenir accompagnante parentale. On n'en était pas encore à coach. J'ai suivi des formations en ligne, en présentiel lorsque je retournais en France pendant les vacances. J'ai monté un certain nombre d'ateliers local, dans mon immeuble et ailleurs. Et en parallèle, je continuais, j'avais quand même trouvé un petit job pour accompagner des enfants et des ados à apprendre le français. Parce que j'ai toujours gardé ce besoin d'enseigner, de transmettre. C'est d'ailleurs une partie de mon ikigai pour ceux qui connaissent cette philosophie japonaise. Bref, j'ai expérimenté plein de choses en tant qu'accompagnante parentale et je me suis rendu compte que souvent dans la relation parent-enfant, il se jouait des choses inconscientes un peu chez les adultes et j'ai compris que je pouvais aller encore plus loin en coachant les personnes, mais à titre individuel. Et donc là, j'ai eu une deuxième prise de conscience importante, j'ai passé une certification pour devenir coach. Et puis après, mon fils a grandi, il a manifesté des forts comportements déjà à Taïwan et encore maintenant perfectionnistes, hein, qui ont agi encore comme un nouveau déclencheur pour moi. Et puis environ après un an et demi d'activité, j'ai resserré mon activité professionnelle autour du perfectionnisme. J'ai découvert que j'avais vraiment à cœur d'accompagner spécifiquement les personnes perfectionnistes. Voilà un peu mon parcours.
Ok, c'est hyper riche. J'ai plein de questions, du coup. J'ai pris des notes comme d'habitude, mais plein de questions me viennent. Alors déjà, pour ceux, on en a déjà parlé un petit peu dans le podcast, et notamment avec Cédric, que tu connais, qui est le président de TEDx, du Ikigai. Est-ce que tu peux nous redonner ta définition, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît?
Oui, alors l'ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise qui, si on devait résumer en un mot, est notre raison d'être, notre raison de vivre. Donc, il se découpe en quatre domaines d'activité, ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin et le quatrième cercle qui n'existe pas au Japon au départ, ce pourquoi on pourrait être payé. Et donc, tout ça... tous ces points importants constituent notre raison d'être, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous booste, ce qui nous motive à agir.
Ok, très clair. C'est ce que Cédric nous avait un petit peu expliqué aussi, donc hyper intéressant. Et je pense que déjà, on remettra un lien qui renvoie vers ça parce que ça peut accompagner. Toi, ça t'accompagne au quotidien, du coup, cette méthode ?
Ah, moi, c'est ma ligne rouge. C'est mon garde-fou. C'est-à-dire que dans mon Ikigai, on va étudier les forces de caractère, les valeurs, ce qui nous donne envie de contribuer au monde, comment on se lie les uns aux autres, ce qui est important pour nous, etc. On étudie à la fois ça au plan énergétique, au plan philosophique, etc. Moi, c'est ma boussole, clairement. Dès que je ne vais pas bien, je reviens à mes valeurs, je reviens à mes forces. Quand je doute de moi, quand mon perfectionnisme, toque à la porte, ça me permet de me recentrer.
Ok. Et donc, du coup, tu nous rassures en nous disant...
Ça devrait d'ailleurs être étudié à la fac ou dans les études, hein, tu sais.
Bah oui, non mais complètement. On ne le voit pas, ça. À la fac, enfin moi je me souviens pas que dans mes cours j'avais vu le l'ikigai et pourtant j'en entends beaucoup parler maintenant, ça se développe énormément. Toi tu l'as rencontré parce que à Taïwan du coup tu en as pris conscience là-bas ou tu l'as appris pendant ta formation?
Alors moi je l'ai appris à Taïwan en fait, j'ai lu une centaine de livres sur la parentalité, une centaine d'autres sur le développement personnel, tu sais comme il fallait que je m'occupe là-bas, j'ai beaucoup lu, donc j'ai fait mon Ikigai à travers un livre et puis ensuite j'ai suivi une formation pour devenir coach Ikigai avec Audrey Hakoun, l'une des spécialistes en France, donc je le transmets aussi à mes coachés.
Ok. Tu me redonneras le nom, je le remettrai dans les notes de l'épisode également.
Oui.
Hyper intéressant. Et en fait, du coup, toutes ces formations ont permis aussi que toi, tu apportes... ton unicité finalement dans ton coaching, donc le perfectionnisme, l'ikigai, et puis cette formation de coach un peu plus globale, j'imagine.
Oui, alors après, je me suis formée à plein d'autres outils, hein, intelligence émotionnelle, EFT, toujours autour des émotions, on pourra en parler, mais les émotions pour moi ont une grande place dans notre vie, donc j'ai fait beaucoup de choses autour des émotions, pour les petits et les grands, pour moi-même, pour mes coachés, et oui, à la base, j'ai suivi une formation de coach global et puis ensuite, je me suis formée à plein d'outils pour agrandir ma boîte à outils, en fait.
Okay.
Parce que j'avais envie de faire vraiment de l'ultra personnalisé.
Okay. Et donc, du coup, là, les coachés que tu as aujourd'hui, ils viennent vers toi parce que ils sentent qu'ils sont perfectionnistes et donc, du coup, c'est uniquement des gens qui sont a priori perfectionnistes qui viennent vers toi ou pas forcément?
Alors, au début, ça ne l'était pas. C'était du bouche à oreille. Hein. Quand tu débutes, ta communication elle est un peu limitée, tu as moins d'expérience, donc tu attires des gens de manière plus générale, qui viennent là soit par curiosité, soit parce que tu leur as été recommandé. Maintenant, ce sont 80-90% de personnes qui sont perfectionnistes. Oui. Et puis maintenant, j'ai réorienté toute ma communication sur ce thème.
C'est pour ça aussi qu'on a échangé là-dessus. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés lors d'un événement, le TEDx Orléans, en décembre, où tu as parlé de cette notion-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu t'es dit, en fait, j'aimerais vraiment partager ça au plus grand nombre et pourquoi pas lors d'une conférence?
Eh bien alors, c'est très rigolo parce qu'en fait, il y avait une volonté de partage, évidemment, de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'étais une perfectionniste exacerbée, hein, toxique, comme je l'évoque dans le TEDx. Et même si je suis devenue coach et que j'accompagne des perfectionnistes, le perfectionnisme ne disparaît jamais complètement. Mm-hmm. Il continue d'être là à certains moments, de refaire surface. Et j'avais travaillé avec l'une de mes coachs, puisque je me fais moi-même superviser et coacher, sur des challenges que j'aimerais réaliser, mais qui me font peur. Et j'avais identifié donc un truc qui me ferait vraiment kiffer, ce serait de faire un TEDx et de partager ma vision sur le perfectionnisme. Mais qu'en même temps, je ne me l'autorisais pas parce que c'était un truc qu'il fallait que je réussisse parfaitement. Parce qu'on va le voir, quand on est perfectionniste, on a extrêmement peur d'échouer. Mmh. Et je me suis dit, je vais appliquer la méthode des petits pas que je transmets comme beaucoup de coachs aux coachés, c'est-à-dire de déjà faire un premier petit pas vers mon objectif, qui est donc de réaliser un TEDx. Donc ce premier petit pas a été d'envoyer une vidéo. En fait, j'ai cherché TEDx sur Internet. Je suis tombée tout de suite sur TEDx Orléans. Je n'ai pas cherché à savoir où c'était, comment j'irais, etc. Parce que j'habitais très loin d'Orléans. mais ce n'est pas grave. Et j'ai donc envoyé ma vidéo. Alors, juste le fait d'envoyer ma vidéo, en fait, ça a été le premier petit pas pour me dire que j'avais osé. Et parfois, le premier petit pas, justement, est plus important que le résultat final. Quand on se met un objectif, pour moi, le plus important, c'est pas forcément de réussir l'objectif in fine, mais c'est de commencer, c'est d'oser y aller. C'est comme la première marche d'un escalier, pour moi, c'est la plus difficile. Et donc, j'étais déjà très contente d'avoir envoyé cette vidéo-là, et je ne savais pas ce qui allait se passer après. Alors, il s'est passé que du positif, étape par étape, il y a eu d'autres, un deuxième pas, puis un troisième pas, etc., jusqu'à ce que je puisse faire mon talk devant un public. Mais c'était génial. Déjà, juste le fait d'avoir osé envoyer ma vidéo, ce que je n'avais jamais fait, ni dans le cadre personnel, ni dans un cadre professionnel, m'a donné confiance en moi, en fait. M'a dit que c'était possible et m'a permis de reconnaître que j'avais vraiment envie de faire un TEDx, en fait.
Ouais, c'est hyper fort, je trouve, de parler de cette notion de petit pas, step by step, pour arriver à ce résultat. Et même si, comme tu disais, l'objectif final n'est pas forcément atteint tout de suite, et ben, y a quand même ce pas qui fait que, et c'est hyper puissant, tu as pris confiance en toi grâce à ça, quoi. En tout cas, ça y a participé. Et donc, ton perfectionnisme dans tout ça.
Ben, mon perfectionnisme dans tout ça, j'ai lâché prise au fil des auditions, au fil des rencontres. Et puis à Orléans, j'ai été super bien coachée, accompagnée. C'est pas forcément le cas de tous les TEDx, de ce que j'ai compris ultérieurement. Et donc, j'ai pris confiance en rencontrant les autres speakers, en rencontrant les organisateurs, les différentes équipes, etc. On voit qu'on n'est pas tout seul dans la réalisation de cet objectif, donc ça booste. On voit que d'autres personnes peuvent douter dans d'autres domaines également.
Mmh, complètement.
Donc non, ça a été 6 mois où j'ai vraiment pu me détacher à travers cette nouvelle expérience, à nouveau sur mon perfectionnisme, mais sur des choses sur lesquelles je n'avais pas forcément travaillé comme ça.
Mmh. Voilà. Ouais. Je voulais revenir sur quelque chose. Tu nous as dit que du coup, tu étais partie en expatriation à Taïwan. Je ne me souviens plus pour combien d'années et surtout au départ, pourquoi tu y es allée ? C'était parce que ton mari était muté, c'est ça ?
Alors, mon mari était en... Donc moi, j'étais encore enseignante à l'université. Mon fils avait un mois et un jour, un chasseur de tête, propose à mon mari un entretien d'embauche. On ne savait pas où c'était, etc. On découvre au fur et à mesure des entretiens que c'est en Asie, puis à Taïwan. Et bon, j'ai finalement accepté qu'ils prennent le poste. En gros, le droit de veto m'appartenait. Ça n'avait pas été du tout dans nos plans. Voilà, je venais d'avoir un bébé, j'avais envie de stabilité, j'avais mon poste à l'université, tout allait bien, tout était contrôlé, justement. je savais où j'allais, tu vois. Et là, d'un coup, tout s'arrête, tout le monde, toute ma vision de ma vie de famille, ma vie professionnelle que j'ai orchestrée, que j'ai choisie, s'effondre. Et je dois aller vers l'inconnu total. Donc ça, je le dis souvent, ça a été le premier pas pour moi vers beaucoup de confiance et de lâcher prise. Sans Taïwan, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, clairement. Ça a été un premier petit pas de vie de famille fondamental. Celui qui a tout changé, d'ailleurs.
C'est hyper intéressant parce qu'on voit beaucoup que les voyages forgent aussi des personnes et les font évoluer. Et c'est très souvent quand même très positif. Enfin, moi, je sais que j'adore voyager aussi. On en parle beaucoup dans le podcast. Et on se rend compte que les entrepreneurs qui ont voyagé, ils ont eu un jour ce déclic en se disant bah, « En fait, j'ai plus envie d'avoir juste ce confort de mon quotidien à faire mon métro, boulot, dodo. » Enfin, voilà. Et en fait, j'ai envie d'oser, comme tu dis.
Mais c'était exactement ça. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'ai très peu voyagé. Enfin, je me suis mise à voyager avec mon mari, qui, lors de notre premier voyage en amoureux, nous fait aller dans un hôtel pour voyageurs, pour les jeunes, où on est, je crois, 40, dans un dortoir où on est 40. Je n'avais jamais dormi avec 40 personnes trois nuits, moi, comme ça. Le deuxième voyage, on part en sac à dos en Inde, sans réservation d'hôtel, sans rien. Il m'a sorti de ma zone de confort comme jamais. Et ensuite, on doit s'expatrier à Taïwan. Je n'ai jamais visité l'Asie. Je ne parle pas chinois, j'ai un niveau d'anglais, mais quasi inexistant. Et je suis toute seule là-bas avec un bébé de, à l'époque, 6 mois et demi, 7 mois. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est comme tsunami dans ma tête.
Je te rejoins parce que le mien est pareil, donc c'est lui qui m'a emmenée et pareil, j'ai dû sortir de ma zone de confort aussi énormément. Le van n'a pas forcément se laver, rencontrer des cultures qui finalement sont beaucoup plus heureuses que vous en n'ayant rien, et c'est ça aussi qui fait le déclic, c'est de se dire en fait il y a un truc qui dans ma vie ne va pas, et en fait je vais pas être bien en continuant de contrôler tout ce que je pense qui est bien de faire parce que la société me dit que c'est bien de le faire.
Et heureusement, moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'ils nous ont apporté, parce que, encore une fois, je n'aurais pas osé parler à des inconnus, me mettre à apprendre une nouvelle langue, enfin deux langues en l'occurrence, même si en chinois je suis toujours à zéro, mais en tout cas j'ai essayé d'aller vers les gens chinois, créer un nouveau business dans un pays inconnu. Je me suis découverte totalement dans tous les domaines grâce à ça. Donc je trouve que ça a été une expérience absolument magique. Il y a eu des côtés difficiles, notamment le burn-out parental, mais franchement, ce serait à refaire, je le referais des milliers de fois. Ça a contribué à me dire, mais quelle vie je veux offrir à mon enfant, quelle vie je veux vivre dans le contrôle, à savoir exactement ce que tu disais, métro, boulot, dodo, à connaître exactement tous les tenants et les aboutissants de ce que j'allais vivre, alors qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Ni dans mes forces, ni de ce que j'étais capable de faire, de ce que j'avais envie de faire, en fait. À la fac, je me suis rendu compte, quand j'ai passé 2 ans à Taïwan, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas bien à la fac. Ce que j'aimais à la fac, c'était enseigner, c'était le contact des étudiants, c'était le partage des connaissances, des savoirs, l'échange. Mais donner des cours, évidemment, mais j'étais enfermée dans un rôle où parfois on m'avait reproché de faire trop réfléchir les étudiants. J'avais notamment un cours d'histoire de la justice que j'adorais, où je les faisais réfléchir sur des cas passés et présents, sur des grands criminels, femmes, hommes, des personnes racisées ou non, etc., où j'avais vraiment envie de leur apporter de la réflexion, de l'autonomie. On me le reprochait, ça, tu vois. Je devais simplement appliquer toujours des consignes. Je ne devais pas parler aux étudiants, etc. Enfin, c'était très, très formaté. Et le voyage, l'ouverture, m'a permis de changer totalement de perspective sur le monde, sur moi-même, sur le partage, sur mon envie d'enseigner différemment, etc. Tu vois ?
Oui, je te rejoins énormément là-dessus. Vous êtes resté combien de temps à Taïwan ? Et après, pourquoi vous êtes rentrée, du coup ?
Alors, on est resté 3 ans et on est rentré parce que je supportais mal le climat, à mon grand désespoir. J'ai adoré ce pays, en particulier les gens. J'ai jamais rencontré de personnes aussi formidables que les Taïwanais. On est d'ailleurs encore en contact avec beaucoup d'entre eux. On est revenu en Suisse après Taïwan, où on est resté et on a recréé une communauté avec les Taïwanais dont on se sent extrêmement proche. Et donc, simplement, j'avais du mal à supporter l'humidité. Je faisais beaucoup de malaise, beaucoup d'asthme. Donc, on s'est décidé à rentrer pour des raisons de santé.
Ok. Et maintenant, vous êtes en Suisse, du coup?
Maintenant, on est en Suisse, mais on va à nouveau revenir en France, là, dans quelques mois.
Où ça?
En Alsace.
Ok. C'est vos origines? C'est un endroit d'attache?
Non, simplement l'endroit où mon mari travaille. Il travaille toujours en Suisse, donc pour garder une vie de famille équilibrée, ne pas rester trop loin de son lieu de travail, mais côté français.
Ok, très bien. Tu as parlé de burn-out parental. J'ai déjà beaucoup parlé de burn-out dans ce podcast avec des entrepreneurs qui se sont lancés suite à des burn-out notamment. Mais alors, burn-out parental, on n'en a jamais parlé et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as senti ça et comment tu as su que c'était le cas, qu'est-ce que c'est concrètement, etc.
Alors, dans burn-out parental, vous avez le mot burn-out qui renvoie à peu près à la même définition que le burn-out professionnel. C'est l'idée de se brûler un peu les ailes. En fait, c'est un syndrome d'épuisement professionnel, dans le cadre professionnel et parental, comme dans le cadre de la vie de famille. Donc, on est épuisé d'un coup, subitement. Alors, souvent, il y a eu des signes précurseurs, soit physiques, soit mentaux, dont on ne s'est pas aperçu ou qu'on a laissé passer pensant que ça allait passer, justement. Donc, c'est un syndrome d'épuisement qui survient, en fait, quand un parent, homme ou femme, ça n'a rien à voir avec le sexe, quand un parent a été exposé à trop de stress dans son rôle de parent pendant une durée un peu longue. Souvent, il ne se reconnaît pas dans son rôle de parent, il est épuisé, vidé, au bout du rouleau, quoi. Il a une saturation émotionnelle et physique, sentiment de ne plus en pouvoir, d'avoir une fatigue dans son corps qui ne disparaît jamais. Voilà à peu près ce qu'est le burn-out parental. Et c'est assez dangereux parce que l'une des étapes du burn-out parental, c'est la distanciation affective d'avec ou son enfant, si on en a son enfant ou ses enfants, si on en a plusieurs. Quand on est trop fatigué, on n'a plus l'énergie de s'investir dans la relation parent-enfant, ou en tout cas pas comme on le faisait avant, ou comme on voudrait le faire. On prête moins attention à ses enfants, on est moins disponible. On est en mode un peu survie.
Et comment t'as fait alors pour résoudre ça?
J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, donc j'en avais déjà entendu parler. Et puis un jour, je me suis regardée dans la glace, j'ai osé me regarder dans la glace et de me dire, mais en fait, ça va pas. J'avais accumulé beaucoup de fatigue et de frustration. Et tu vois, le soir quand mon mari rentrait... Moi, j'étais pas forcément en joie qu'il me raconte sa journée, j'étais pas en joie de raconter la mienne qui ne m'avait pas convenue. Et puis, je répétais tout le temps que j'étais fatiguée, que j'en pouvais plus, quoi. Alors que j'étais à la maison, alors que pendant des années, j'ai cumulé, comme je l'ai expliqué précédemment, des tonnes d'activités en même temps, sans être fatiguée. Parce que j'étais pas portée par le même moteur. Là, il manquait quelque chose, il manquait un peu de joie dans ce que je faisais, dans mon équilibre de vie. Et l'un des facteurs du burn-out parental aussi, c'est le déséquilibre entre les facteurs de stress et les facteurs d'aide. Il y a souvent une dichotomie et souvent les personnes qui tombent en burn-out parental, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ressources à côté. Alors ça peut être des ressources matérielles, ça peut être quelqu'un qui nous aide à garder notre enfant, ça peut être un soutien psychologique, etc. Mais il y a... Voilà, une différence entre le niveau de ressources et le niveau de stress. Clairement, moi, en étant isolée seule, c'est ce qui m'est arrivé. C'était tout au début. Il y avait le stress du déménagement, le changement total de culture, de langue, d'alimentation. Ça faisait beaucoup. C'est quelque chose que je n'avais pas vu venir.
Oui, et puis souvent, on se met des œillères au départ, et comme tu dis, ces signes, on se dit non, mais c'est bon, c'est rien, on les laisse passer, etc. Puis jusqu'au jour où finalement, le petit trou noir, gros trou noir arrive, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de trou noir en burn-out, mais alors est-ce que du coup, en burn-out parentel, tu as ça un matin, tu n'arrives plus à te lever, et du coup, tu
Absolument.
Peux plus occuper ton enfant.
Ça fait partie des symptômes. Il y a beaucoup de symptômes. Il y a des troubles du sommeil, des problèmes de santé. Certains parents peuvent en arriver à boire, avoir des idées noires très fortes, etc. Et effectivement, certains, d'un coup, le corps lâche. Absolument.
Ok. Et puis, j'imagine qu'effectivement, comme tu disais, le fait d'être isolé seul dans un autre pays où tu ne connaissais pas la culture, pas forcément les gens, pas forcément d'aide, pas forcément envie de se tourner vers, je sais pas, un psychologue sur place que tu ne connaissais pas, enfin, pas rassuré.
Bah, donc, c'est surtout que je ne parlais pas chinois, je ne parlais pas anglais. Dis-toi que là-bas, je n'avais personne qui parlait en français. Je pense qu'on était quasiment la seule famille européenne. Mon mix en fait dans notre quartier. D'ailleurs, c'est très rigolo pour l'anecdote. Tu sais, j'avais passé un entretien d'embauche à l'une des facultés de Taïwan, et on m'avait dit qu'on était surpris et choqués qu'une femme française vienne postuler à ce poste parce qu'on ne comprenait pas pourquoi j'étais là. Pourquoi j'étais là ? Parce que je n'étais pas mariée à un Taïwanais. Donc en fait, une famille française, totalement française, non mixte, on m'avait dit « mais vous êtes là pour faire de l'espionnage industriel, on ne vous veut pas. »
Ah ouais.
Tu vois ? Donc vraiment, j'avais fait face à des réactions assez violentes. Enfin moi, je l'avais vécu comme ça, quoi. Un rejet et un échec fort. Je veux dire, j'ai écrit... Ma thèse a été publiée, j'ai fait des articles. Je veux dire, j'ai un certain niveau d'études. On n'a pas regardé mon CV, on n'a pas étudié ce que j'ai pu faire avant. Le critère, c'était, vous n'êtes pas marié à un Taïwanais, que faites-vous là ?
C'est dur. Voilà. Et du coup, dans tout ça, le perfectionnisme, où est-ce qu'il a sa place ? Comment est-ce que...
Bah là, le perfectionnisme, il s'est heurté justement à ce rejet très fort. C'est-à-dire, je ne me sentais pas dans une communauté. J'ai échoué dans mon intégration. En tout cas, les premiers mois, c'est comme ça que je le voyais. J'ai échoué en tant que mère parce que je suis fatiguée et que j'arrive pas à tenir la cadence. Donc moi, je me voyais comme un échec. Je me disais, le matin, jusqu'au soir, je suis un échec. J'ai raté ma vie. Qu'est-ce que je vais devenir ? Tout ça pour ça.
Et donc, du coup, le déclic, ça a été de se dire, bon, tu t'es rendu compte de ce burn-out, tu as résolu la chose en lisant, etc. Pour toi, en comprenant que tu étais perfectionniste, en faisant des formations. Et moi, j'aimerais bien t'amener à cette partie, c'est, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es dit, en fait, c'est au travers de cette notion de perfectionnisme que j'ai envie d'accompagner les gens. Parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y a plein de gens qui sont confrontés à ça et qui ne savent pas comment en sortir ou comment faire pour, je sais pas, mieux déléguer, pour ne pas culpabiliser de retoucher chaque petit truc qui n'est pas assez parfait à leurs yeux, etc.
Alors en fait, déjà, il y a eu les cours de français à Taïwan. Tu sais, j'ai pris ce job qui était important pour moi, qui était mal payé, mais ça n'avait pas d'importance. J'avais besoin d'être au contact des étudiants. Ça me manquait énormément. Donc, j'ai trouvé cet emploi à temps partiel pour donner des cours de français. Et là, j'ai été choquée à mon tour, dans le sens inverse, où j'avais des enfants de 5 à 17 ans à peu près, qui était épuisée. Je donnais des cours notamment le week-end, en particulier le dimanche, où j'avais été prise d'affection pour une petite fille dont je m'occupais, qui tous les dimanches s'écroulait de fatigue sur la table, que ses parents obligeaient à suivre un cours de français le dimanche après-midi, alors qu'elle avait déjà un cours de musique juste avant, et qu'elle avait déjà tous ses cours toute la semaine. Et en fait, ça m'a frappée de me dire « mais dans quelle société on vit ?» Tu sais, on a parlé de l'IKEA, de la contribution au monde tout à l'heure, mais j'ai pas envie d'un monde comme ça où on oblige un enfant, quel que soit son âge, ni même un adulte, mais ça m'a frappée encore plus en tant que maman, cet enfant, de devoir s'imposer des cours extrascolaires à n'en plus finir toute la semaine, de devoir avoir les meilleures notes, de devoir performer déjà à cet âge en permanence. C'est un pour peu moi, un enfant de cet âge.
Oui,
j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas du tout. À Singapour, on leur fait passer carrément des tests bien plus tôt et tout. Donc, j'ai découvert effectivement cette culture de la performance. Mais aussi, il y a cette idée que comme on est dans une culture très familiale où finalement l'enfant va aider aussi la famille, va contribuer à l'élévation de la famille matériellement ou intellectuellement, il y a une très très grosse pression des familles en fait. Et même les parents qui veulent faire différemment en fait se heurtent à des remarques peut-être des grands-parents ou des voisins, etc. Et on se rend compte qu'en fait la pression c'est la société qui la met. Et donc j'ai découvert qu'en fait je voulais véhiculer, je voulais transmettre un message opposé. Laissons nos enfants vivre, jouer, apprendre, se tromper, être des débutants. En fait. Et quand je suis devenue coach et que j'ai accompagné différents profils dans le cadre personnel ou professionnel et que j'ai à nouveau rencontré un certain nombre de perfectionnistes avant de me spécialiser dans le domaine, et notamment des gens en entreprise qui faisaient justement des burn-out professionnels, mais qui, quand on gratte, on se rend compte qu'ils ont un profil perfectionnisme assez développé. Je me rends compte qu'en fait, le perfectionnisme tire ses racines de l'éducation, de la peur de l'échec, de la peur d'être rejeté, de se tromper, mais finalement d'être soi, de ne pas oser être soi et de se juger en permanence, d'être dans des débordements émotionnels, etc. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me spécialiser sur le perfectionnisme.
Ok. Tu as remarqué aussi que ton fils était perfectionniste. Est-ce que
Absolument.
Tu l'expliques de par, quand il était jeune et de ce que toi tu as vécu? Est-ce que tu penses que c'est possible de lui avoir transmis quelque chose et comment est-ce que tu accompagnes ton fils du coup au quotidien?
Alors clairement, je pense que ça se transmet. Je pense que les chiens ne font pas des chats, vraiment. Je pense qu'à Taïwan, il a été dans 2-3 écoles où c'est ce qu'on lui a appris. J'avais été frappée la toute première fois quand il s'était mis dans des colères, mais vraiment extrêmement fortes, parce qu'il avait dépassé de 1 mm son coloriage.
Ah oui, ok.
Et je ne lui ai jamais appris ça. C'est-à-dire que moi, je suis perfectionniste, mais pas sur le coloriage. Le coloriage et le dessin, pour moi, ça représente vraiment la créativité, l'imagination. Et c'est vraiment le seul domaine où je suis en roue libre, tu vois. Donc, je sais que ça, c'est pas moi qui lui ai transmis. Et pourtant, c'était là. C'était très fort en lui. Ou mettre, tu sais, un carré... Je sais plus comment ça s'appelle. Les jeux pour enfants, tu sais, où tu dois insérer un carré dans la forme carré, un rond dans la forme ronde, etc. Ça, c'est pareil, il se mettait en colère. Et ça, c'est pareil, ça vient pas de chez nous. Donc, pour moi, l'école et l'éducation parentale ont un rôle tous les deux à jouer sur le développement ou non du perfectionnisme. Et donc, oui, quand ton enfant, il te fait des colères pas possibles à 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, il a 5 ans, sur des choses comme ça, t'es obligé de l'accompagner parce que ça devient un drame quotidien à la maison, en fait. Donc concrètement, j'avais déjà développé pas mal d'outils d'intelligence émotionnelle avec lui déjà dès le début. Donc quand il était bébé, on avait déjà fait la langue des signes pour communiquer. Ça nous avait aidé sur des colères qu'il avait avant qu'il puisse être en âge de communiquer, de parler avec des mots. Ensuite, je lui ai fait de l'EFT assez tôt quand il avait des tempêtes émotionnelles importantes ou des peurs. Bloquante.
Juste nous traduire EFT.
Oui, EFT. Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle qui vient des États-Unis et qui consiste à tapoter sur des méridiens, donc sur le tranchant de la main, sur le bout des doigts et le visage notamment, qui consiste à répéter des phrases liées à l'émotion qu'on vit et puis à transformer, à libérer, puis à transformer l'émotion qui nous embête.
Okay,
donc je me suis formée à cette technique.
Okay.
Je le fais dessiner librement ses peurs, les raisons de sa colère, enfin voilà. Et puis surtout, je lui montre que moi je suis en changement. Quand je fais une erreur, je lui dis, tu vois, bah, je me suis trompée. Quelle solution je peux mettre en place pour changer ma manière de faire. S'il fait tomber quelque chose par terre, ça, je l'avais vu à Taïwan. Les parents empêchaient toujours les enfants de jouer à des choses de peur qu'ils cassent quelque chose. Ils devaient vraiment rien casser, tu sais.
Frustration.
Donc, effectivement, l'émotion principale, quand l'enfant il veut être autonome et qu'il a besoin de découvrir, il a besoin de toucher, etc., c'est hyper important pour son développement, bah, il va se mettre en colère parce que, justement, il se sent frustré, comme tu l'as dit. Et donc, quand il fait tomber quelque chose par inadvertance que les parents n'ont pas réussi à enlever parce qu'ils enlèvent absolument tout, tu sais, ils balisent tout le terrain, et qu'il arrive quand même à faire tomber quelque chose par terre, là, c'est le drame. Tout le monde crie, mais qu'est-ce que t'as fait, nanana, on enlève le truc et tout. J'explique qu'au lieu de faire ça et de traumatiser tout le monde, on peut choisir la voie de la réparation. Donc, de donner l'autonomie à l'enfant, de choisir la voie de la réparation. Ok, ça arrive à tout le monde de renverser quelque chose, de casser quelque chose qu'on ait fait exprès ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais comment tu peux réparer ? Et donc, donner à l'enfant le choix de ce qu'il peut faire à la place. Et là, l'enfant retrouve toute sa responsabilité, et il apprend de ses erreurs. Déjà, il a compris que en faisant tomber quelque chose en hauteur, bah, quand ça tombe par terre, ça peut casser, etc. Enfin, il y a tout un champ de la compréhension du développement qu'on enlève à l'enfant en le privant de réparer. Et surtout, plus on leur inculque tôt que l'erreur est humaine, qu'elle fait partie du processus d'apprentissage, on ne peut pas apprendre si on ne se trompe pas. On n'est pas des robots et c'est nécessaire pour la plasticité cérébrale, en fait. Plus on va comprendre un scénario, plus on va aller vers un nouveau scénario, plus on va comprendre qu'on peut aller plus loin, on décortique toutes les étapes, en fait.
Ouais, le plus jeune âge, tu transmets ça et plus tu crées des habitudes, finalement, qui semblent normales. De faire des erreurs pour avancer, pour évoluer, pour se développer. Et donc, du coup, en fait, ce mot échec, il est dans notre société vu très négativement, alors qu'en fait, ce serait plutôt de l'apprentissage pour de l'évolution.
Absolument. Mais il y a plein de cultures, à l'inverse, où, par exemple, aux États-Unis, tu sais, on a ce mythe du self-made. Les gens qui se sont fait tout seuls, qui ont monté leur boîte sans forcément de diplôme ou quoi, parce qu'ils ont essayé 25 fois avant et qui se sont pas arrêtés sur un échec ou une erreur, parce que ça leur a permis de comprendre que soit c'était pas le domaine d'activité qui leur plaisait, soit parce qu'il en manquait des formations, soit parce qu'ils avaient pas délégué, etc. Enfin, pour plein de raisons. Mais si on fait pas, si on n'essaye pas, on sait pas, en fait. L'erreur, c'est hyper important, ça nous permet de savoir où on va, de réajuster.
Oui, et du coup, cette culture de self-made, ça me fait rebondir sur cette notion entrepreneuriale et cette notion de perfectionnisme. Donc déjà, ce que je voulais te poser comme question, c'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est perfectionniste. Tu l'expliques très bien dans ton podcast, parce que tu as un podcast maintenant, Parfaitement Imparfait. Je remettrai le lien dans les notes de cet épisode et je vous invite vraiment à l'écouter. J'aimerais juste que tu nous fasses très rapidement, nous expliques comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est perfectionniste sur certains points.
Alors, le perfectionniste, qu'il soit entrepreneur ou pas, il va se surinvestir dans les tâches qu'il a à faire. On lui prête souvent des qualités d'investissement, de travail, de rigueur, mais finalement, elles sont tellement exacerbées que ça en devient un frein. Un entrepreneur perfectionniste va avoir du mal à passer à l'action, va passer un temps fou à se perdre dans des détails. Je ne sais pas, par exemple, un entrepreneur, j'en ai certains en coaching. Tiens, par exemple, j'ai une femme qui veut... se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, donc elle est au chômage, il faut qu'elle aille vite parce que ses allocations vont bientôt se terminer. Ça fait 6 mois qu'elle bosse sur son projet, donc elle connaît sa cible, exactement ce qu'elle veut offrir comme service, etc. Où, à qui, comment, à quel tarif, etc. Elle va passer un temps fou à vouloir travailler sur son site internet alors qu'elle n'a pas besoin de site internet pour se lancer. Elle va passer un temps fou à regarder les couleurs, le graphisme pour savoir si cette couleur précisément associée à celle-ci va convenir et va parler à sa cible. Alors, évidemment, l'identité visuelle est importante, tu vas nous le confirmer. Mais il y a un pas entre travailler sur son identité visuelle. Alors, je ne sais pas toi combien de temps tu préconises, mais elle, ça fait des mois qu'elle est dessus. Et tu vois, elle ne va pas agir sur le reste parce qu'elle est bloquée là-dessus. Parce qu'il faut que l'image qu'elle donne à l'extérieur, immédiatement quand on la voit ou quand on voit sa carte de visite, soit parfaite. Et donc, elle ne va pas passer à l'action sur le reste. Et au final, son business, il ne va même pas commencer. Parce qu'elle n'est pas en accord avec l'image qu'elle transmet.
Oui. Je ne préconise pas du tout de temps en particulier. Et d'ailleurs, cordonnier le plus mal chaussé, quand je me suis lancée, je n'avais pas fini mon identité visuelle. Donc du coup, je l'ai revue plusieurs fois. Là, ça fait un an et demi que je suis lancée et je suis en train de revoir mon identité parce que j'ai évolué. Et une identité, ça évolue avec soi, surtout quand on est à son compte, qu'on est indépendant.
Mais c'est important de le dire, merci.
Mais voilà, ça évolue.
C'est pas figé.
Non, complètement.
C'est pas figé et c'est OK de se lancer. Je pense que le plus important quand on est perfectionniste, et quand on est entrepreneur, et je leur dirai peut-être dans des tips, c'est d'y aller. C'est exactement le premier petit pas dont on a parlé précédemment.
C'est ça.
Donc, ces personnes-là, elles sont extrêmement travailleuses, rigoureuses. Elles passent beaucoup de temps sur les détails et elles n'acceptent pas les moindres petites erreurs, les moindres petites imperfections. Ça leur convient jamais. Voilà un petit peu des choses qu'on peut voir. Okay. Elles ne savent pas doser leur effort aussi. Hein. Elles vont mettre toute leur énergie dans des vérifications.
Ouais. Souvent, c'est ça. C'est vraiment de l'investissement, détail, pour peut-être éviter ce lancement de peur de l'échec. Enfin, si je me lance, je vais forcément échouer. Alors que non, en fait. C'est pas parce que c'est plus
Absolument.
Parfait que tu vas rater.
Absolument. Mm-hmm. C'est très important ce que tu es en train de dire. Mm-hmm. C'est très, très important ce que tu viens de dire et merci, on ne le répète pas assez. Derrière le perfectionnisme, le plus gros challenge à dépasser, c'est la peur d'échouer. Et en fait, on se rend compte que quand on procrastine, c'est-à-dire quand on ne fait rien, quand on repousse l'échéance de quelque chose au lendemain, au surlendemain ou encore après, ou à l'inverse, qu'on passe du temps à se surinvestir dans des détails que nous sommes les seuls à voir, dans les deux cas, on a peur. On a peur d'y aller. On a peur du résultat qui va se passer. Alors, on imagine que soit on n'aura pas de clients, soit on va nous juger parce que finalement, on est incompétent, on est nul, on n'est pas beau. Enfin bon, bref. De manière générale, on est imparfait par rapport à ce qu'on voulait être, qu'on va être démasqué dans nos imperfections. Et on ne fait pas, en fait. Donc, encore une fois, qu'on ait peur ou pas de se tromper, qu'on procrastine ou qu'on en fasse trop, dans les deux cas, c'est à un moment donné de lâcher prise. C'est pas facile à faire, c'est même contre-intuitif pour les perfectionnistes, mais c'est d'y aller. Le résultat, il sera pas parfait, il le sera jamais, pour qui que ce soit. Ça n'existe pas. Oui, vous aurez toujours quelqu'un.
Cette notion de perfection, elle est tellement personnelle, en fait. Enfin, tu peux pas dire...
C'est totalement c'est subjectif. Parfait.
Voilà, c'est ça. Subjectif.
Absolument. Tu demandes à 10 personnes ce qu'ils pensent de mon TEDx, par exemple, les 10 vont te donner une opinion différente. Mm-hmm. Parce qu'ils ont leur propre prisme de leur éducation, de leur expérience enregistrée, etc. Et puis, ils vont se focaliser sur un détail qui est important pour eux, qui n'est pas forcément pour toi, etc. Donc, être entrepreneur, c'est simplement oser réaliser ce qui vous fait vibrer et y aller et mettre en place les outils qu'il faut. Après, un autre point important, on a dû l'évoquer, c'est déléguer. Quand on est entrepreneur, on va vouloir, perfectionniste j'entends, on va vouloir contrôler absolument tout ce qui concerne notre business. Donc, les détails vont aller dans la com, alors que bon, je sais pas si vous êtes coach, bah oui, vous êtes pas vous avez pas forcément fait des études de com. Enfin, ça n'a pas été mon cas, même si j'ai fait beaucoup de communication quand j'étais étudiante parce que j'organisais des tas d'événements, donc j'ai des très bonnes bases, mais je n'ai jamais étudié la communication. Vous n'avez pas forcément fait d'études de comptabilité pour votre business, etc. Enfin, il y a plein de domaines d'activité quand on est seul qu'on va vouloir maîtriser, pour lesquels on va penser qu'on est plus compétent parce que on veut garder notre pré carré, ça nous permet d'être assuré. Tout ce qu'on valide, tout ce qu'on vérifie, tout ce qu'on fait par nous-mêmes, ça nous rassure. Et donc, on va avoir tendance à jamais déléguer. Mais ne pas déléguer, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Ça nous empêche de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui est quand même celui pour lequel on a lancé notre business. Et donc, perfectionniste, quand on est entrepreneur, pour moi, c'est un véritable frein si on n'y fait pas attention. Parce que voilà, on pourrait peut-être avoir plus de clients, avoir plus de visibilité rapidement si on ne prenait pas autant de temps à se lancer parce qu'on se perd dans des détails, dans du contrôle en permanence en fait.
Mmh. Mais au début, quand on se lance, on ne sait pas forcément que ça nous fera gagner de l'argent de déléguer et de payer quelqu'un parce qu'on se dit tout de suite, mais non en fait, je vais payer quelqu'un à le faire donc je vais forcément perdre de l'argent, alors que pas du tout.
Il faut l'imaginer comme un investissement.
Exactement.
Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et ça fait toute la différence. Mmh. Au début, quand on lance son business, on n'a pas forcément d'argent de côté ou notre fonds de roulement pour nous aider. Mmh. Donc, ça peut paraître une dépense inutile ou prématurée, etc. Mais vraiment, je vous engage à le faire le plus rapidement possible, en fait. Parce que ça vous garde de l'énergie pour faire votre cœur de métier. Et c'est par votre cœur de métier que vous allez trouver des clients, en fait. C'est pas en passant votre temps à faire de la com au lieu du coaching ou qu'on développe son entreprise.
C'est sûr, exactement. Et donc du coup, bah, peut-être comme tu m'as devancé sur la question des conseils, est-ce que tu aurais un autre conseil à donner à aux entrepreneurs qui seraient perfectionnistes?
Oui. Gardez votre vision et ce qui vous met en joie dans votre tête à chaque fois. À chaque fois que être entrepreneur, pour moi, c'est avoir des vagues émotionnelles en permanence. Donc, c'est aller oser, toujours oser, hein, c'est mon mot du moment, c'est mon mot favori. oser aller regarder en soi ce qu'on ressent déjà quand on a des vagues émotionnelles. Alors, bon, bah, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, soit j'ai pas d'argent, soit j'ai pas de clients, soit j'ai peur d'aller voir telle personne, enfin bon. Ce que vous ressentez comme émotion, y mettre des mots, hein, parce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire la différence, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre la colère et la frustration, par exemple. Ce sont des différences ténues, mais qui sont importantes. Donc déjà, aller observer les émotions que vous ressentez au quotidien, ne pas vous juger le parcours entrepreneurial, c'est un parcours en dents de scie, où on peut passer de la tristesse à la joie en 2 secondes et demie parce qu'on reçoit l'appel qu'on attendait. Donc, les émotions, aller observer nos émotions d'une part, et puis ensuite, dans les émotions, voir ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer, tu vois, ce qui nous anime. Parce que quand on a plein de choses à faire, quand on est entrepreneur, parce qu'on est sur tous les fronts, on a besoin que ça aille vite, des fois, on l'a dit, il y a des considérations financières, des enjeux financiers très importants quand on se lance. On veut tellement bien faire, on se met une telle pression qu'on oublie pourquoi on s'était lancé dans cette aventure.
Complètement.
Donc revenir à son pourquoi et à sa joie, pour moi, c'est fondamental.
Ouais.
Ce qui nous met en joie, c'est comme si on était un enfant. Tu sais, l'enfant qui n'a pas été perturbé, endoctriné, formaté pour rentrer dans le moule et qui ne se pose pas la question « il adore faire ça, il kiffe et puis il y va ». Tu vois ?
Oui, c'est la passion.
C'est ça, en fait. C'est la spontanéité de l'enfant joyeux.
La passion et puis l'innocence de faire. Je pense que quand on se lance aussi dans l'entrepreneuriat, même si on a cette pointe de perfectionnisme à certains moments, on a aussi cette envie d'aventure, d'inconnu et se dire, ben, ok, je verrai où je vais, quoi.
C'est ça. Donc, continuer de cultiver ce qui nous met en joie dans notre activité, quoi.
Complètement.
Un autre conseil, ce serait d'accepter de nous montrer tels que nous sommes. Celui-là, il est important aussi pour moi. C'est de miser, en fait, sur notre vulnérabilité et notre authenticité. On n'a pas besoin de se montrer sous notre meilleur jour, sous une image lisse parfaite, pour être apprécié, pour être aimé, reconnu, hein. Parce qu'en fait, plus on va oser se montrer, plus on va être visible, et plus on va être visible, plus justement on va pouvoir partager, diffuser nos idées, nos talents, nos forces, encore une fois, notre contribution au monde.
Oui, et puis les gens vont se reconnaître, ils ne vont pas se dire « Oh, bah, encore un entrepreneur qui fait des millions et que c'est inatteignable pour moi, bon, bah, je ne vais pas me tourner vers lui parce que en fait, ça me fait peur. » Les gens renvoient Exactement. Leur peur vers un espèce de miroir alors qu'il n'y a pas besoin. Et du coup, être transparent avec soi et montrer aussi qu'il y a des moments plus down, des moments où on est plus, moins motivé, etc. Bon, alors nous, on en parle sur Common the Moon, on en parle beaucoup avec les cycles lunaires, mais j'adore ce que tu expliques sur cette vulnérabilité et cette authenticité qu'il faut la montrer. On a tous cette part-là. On n'est pas tout le temps, tous les jours, hyper joyeux, hyper content, hyper motivé. Et c'est bien de montrer aussi ça. Alors, on ne va pas parler que de points négatifs tous les jours, mais c'est montrer aux autres qu'on n'est pas quelqu'un de parfait.
Mais c'est ça. Comment tu veux connecter à l'autre et aller à la rencontre de l'autre si l'autre te voit comme quelqu'un de parfait? Lui-même, comment il va se sentir, à ton avis? Il va croire que l'image que tu transmets, t'es quelqu'un d'inatteignable, en fait. Mmh. Et finalement, au lieu de lui transmettre comme image, toi aussi, tu peux être toi, tu lui transmets comme injonction, toi aussi, sois parfait. Faut arrêter avec ça, en fait. Tous les médias et les réseaux sociaux qui nous transmettent en permanence ces injonctions de perfection, qu'on soit maman, papa, entrepreneur, salarié, il faut réussir partout, tout le temps, en permanence, en même temps. Et c'est pas possible, en fait, on n'est pas des robots.
Ouais, c'est sûr. J'aime bien quand tu dis il faut réussir partout, tout le temps, en permanence et en même temps. En même
Mais
temps,
oui. Quoi tu sais, il y a en ce moment le terme de wonder parent qui arrive là. C'est le fait de faire comme si on n'avait pas d'enfant. Donc, on est parent, mais on se comporte au boulot comme si on n'avait pas d'enfant parce qu'il faut qu'on réussisse notre carrière professionnelle, notre vie familiale, etc. Mais ce n'est pas possible à un moment donné. D'être bien dans notre peau, d'être en bonne santé, d'être en tout temps parfait au boulot, à la maison, avec nos amis, avec nos envies, en vacances, etc. On n'est pas des pages d'un magazine en papier glacé. On est vivant. Et quand on est vivant, on vit. On vit des émotions, on est traversé par plein de choses au quotidien, en fait.
C'est sûr. Est-ce que tu aurais un autre conseil, du coup, ou est-ce que c'est bon pour toi ?
Non, je pense que c'est bon pour moi.
C'est déjà super, on en a quatre. Je voulais juste terminer cet épisode avec peut-être ma dernière question habituelle. Est-ce que tu aurais un message à nous faire passer, une citation que tu aimes bien, quelque chose qu'on aurait peut-être oublié de parler, dont on aurait peut-être oublié de parler, quelque chose que tu as envie de nous transmettre? Je parle aussi parfois de dédicace, mais bon, tu n'es pas forcément obligée.
Alors, ça peut faire citation, dédicace en même temps. J'ai une copine qui m'a trouvé une citation que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a 2 jours. Une citation du musicien Ibrahim Malouf qui dit « La perfection commence au moment où j'accepte mes défauts. »
Super.
Et ça, j'aime bien.
Il a fait un livre sur ça, sur cette notion de perfectionnisme, d'intuition et de créativité. Ça te plairait beaucoup. Je l'ai offert à mon père.
Je ne le connais pas. Je vais l'acheter, le lire et te dire merci pour ce patache. Tu vois, j'ai bien fait de le dire.
J'adore cet artiste, donc ça me fait plaisir que tu le cites. Donc, la perfection, pardon, commence
au moment où j'accepte mes défauts.
Super. Eh bien, écoute, je crois qu'on va terminer cet épisode là-dessus. Ça me parle énormément. Merci beaucoup, Delphine,
merci
pour ton
à
partage.
Vous. Enfin, merci à toi et aux étudiants qui sont encore là.
Oui, parce que pour la petite anecdote, on enregistre avec les étudiants de Cib de Vinci avec qui je donne cours cette semaine. Et donc, le podcast a été mouvementé. Mais merci, Delphine, pour tes partages. Merci pour ta confiance. Et puis, je te dis à très, très vite.
Merci infiniment, Alexane.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.